Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH d'AXA. C'est quoi le boulot d'un DRH quand il gère 150 000 personnes? C'est la question qu'on va poser dans un instant à Karima Sylvent. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'agisme? C'est la discrimination contre les seniors. Une députée prend le sujet très au sérieux, c'est Audrey Dufeu. Elle sera avec nous dans un instant. Et puis, est-ce que vous avez de l'impact quand vous parlez en visioconférence? C'est pas si sûr que ça. Tous nos conseils en fin d'émission avec Sophie Baker. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutive de la semaine, c'est Karima Sylvent. Bonjour, vous êtes DRH d'AXA. AXA, 153 000 collaborateurs, une partie en télétravail, une partie bien sûr qui subit, comme tout le monde, je dis une partie, mais tout le monde subit la cinquième vague de la crise sanitaire. Comment ça va actuellement? Comment est le moral chez AXA?
Alors ça va bien. Chez AXA, le moral, il est, je dirais que nous, on a vu un engagement qui a augmenté pendant la crise et qui est resté très important, y compris mesuré en décembre dernier. Et puis tout le monde attend avec impatience de reprendre un peu plus d'interaction en face à face. On a fait le choix en France d'être à 4 jours de télétravail. On a étendu les 4 jours de télétravail encore pendant les 15 prochains jours. Donc on observe les chiffres de la situation sanitaire avec grande attention. Et puis en Europe, c'est la même situation. La plupart de nos salariés sont en télétravail.
Vous dites ça va bien et vous mesurez, c'est-à-dire que vous faites attention que ça aille mal, que certains lâchent un petit peu leur intérêt pour le travail?
Nous, on mesure l'engagement tous les trimestres. Et on le mesure à un niveau très fin, puisqu'on le mesure à la maille de l'équipe, dès que vous avez une équipe de plus de 10 salariés. Et donc, depuis le début de la crise, on a renforcé, ce sont des enquêtes dans lesquelles il y a une dizaine de questions, où on demande aux salariés quelques questions sur comment ils se sentent, et puis aussi de suggérer, sous format libre, des recommandations. Et effectivement, depuis le début de l'année 2020, ce qu'on a observé, c'est que l'engagement augmentait à peu près plus de 60%, ce qui est très important. Et quand je regarde, moi, dans le détail, pourquoi, hein, parce que c'est intéressant de regarder pourquoi, c'est vraiment le sujet de la cohésion d'équipe et du rôle des managers qui fait que nos managers ont été au top, hein, pour résumer. Et je pense que grâce à eux, les collectifs ont tenu. Et ça va avec une certaine fatigue, hein, qu'on constate auprès du management, mais les collectifs de travail ont tenu et l'engagement est à un niveau qui reste très important.
Vous dites que les managers sont au top et pourtant on est aujourd'hui face à une révolution managériale totale, aussi bien dans la manière de recruter, dans la manière de travailler, de déléguer, de gérer ses équipes. Vous, chez vous, ça va?
Quand je dis au top, c'est que je trouve que cette crise sanitaire, elle a été, ça a été une étape de révélation du management. Quand je regarde ce qui fait que l'engagement tient, c'est effectivement le rôle des managers, parce qu'ils ont été proximité, empathie, ils sont adaptés aux situations individuelles, ils ont été beaucoup plus proches de leurs équipes. C'est paradoxal de dire qu'on a fait beaucoup plus de télétravail, donc de visio, et en même temps une proximité plus forte, mais c'est la réalité de ce que nous disent les salariés. Ensuite, effectivement, c'est difficile. Donc il ne faut pas se le cacher, je pense que c'est difficile. Toutes les entreprises vivent une révolution qui ne va pas s'arrêter avec la pandémie, parce que je ne pense pas, moi, que la pandémie soit une parenthèse. Je pense qu'on est au début d'un mouvement de fond et de révolution des manières de travailler. Donc, effectivement, le rôle du manager, il est devenu ou il devient de plus en plus complexe, avec ses joies et ses difficultés d'ajustement, parce qu'il faut manager des équipes qui sont sur site, qui sont en télétravail et qui n'ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes aspirations. Et donc, ce mélange de flexibilité très importante et de besoin de cohésion d'équipe très importante.
Mais ça s'est bien fait, en fait. Ça s'est bien fait chez vous. Les managers ont réussi.
Alors, pour l'instant, je trouve qu'on réussit bien. On a des besoins d'accompagnement qui sont importants et nous le faisons. Par exemple, nous avons créé cette année une académie des managers. Nous avons 10 000 managers en France, dans le monde, l'ensemble des collaborateurs que vous avez mentionnés. Et nous avons créé une académie des managers pour les former. Donc, pour l'instant, quand je mesure l'engagement des managers, effectivement, l'engagement tel qu'on le voit au travers de nos instruments d'analyse est important. L'engagement de nos collaborateurs.
Vous ne les laissez pas dans la nature, vous les formez, vous les suivez.
On les forme, on les accompagne, on recueille leur avis aussi, parce que c'est important de comprendre ce que les personnes ressentent. Et encore une fois, je leur sais gré, je suis extrêmement reconnaissante à l'ensemble des managers d'AXA parce que l'entreprise a tenu grâce à ses collaborateurs et grâce à ses managers qui, effectivement, ont assuré la cohésion des équipes de bout en bout. En mars 2020, comme la plupart des entreprises, nous, on a mis sur 2-3 semaines l'intégralité de tous nos collaborateurs dans le monde en télétravail. Donc, on était équipés techniquement, mais le sujet, ce n'était pas la technique.
Oui,
c'était vraiment le reste.
La capacité
à le faire humainement. Et c'est pour ça que moi, je rends grâce au management, parce que c'est lui qui a assuré cette mise en œuvre. Encore une fois, rien n'est parfait, mais je trouve qu'il y a une forme de résilience d'agilité qui est extraordinaire et qui a existé. Maintenant, à nous de faire en sorte que dans la phase qui s'ouvre, on continue à accompagner cette évolution du management, à aider les managers dans leur métier qui change.
On passe notre temps ici dans Happy Boulot Le Mag à dire qu'il faut que le DRH descende, s'intéresse à l'ensemble de ses collaborateurs. Vous en avez 150 000, je ne vais pas vous demander évidemment si vous connaissez leur nom, mais c'est quoi votre quotidien à vous, votre boulot? C'est quoi? Il faut que vous insuffliez une philosophie, c'est quoi?
Alors mon quotidien à moi, c'est je dirais deux choses. C'est d'abord avec mes équipes, et quand je dis mes équipes, elles sont à Paris, mais elles sont ce sont aussi l'ensemble des équipes qui sont dans nos entités, dans le groupe, donc les équipes RH avec lesquelles j'ai
dans
des contacts
pays, ouais, plus de
dans
50 pays,
ouais. Voilà. Et d'ailleurs cette semaine, je les réunis en visio pour parler justement de nos enjeux, de notre stratégie. Ce sont aussi les rencontres avec les managers, et quand je le peux, je vais dans les entités. Il se trouve que effectivement, moi, je regrette que depuis 2 ans, les voyages se soient un tout petit peu taris, mais c'est une source inépuisable de rencontres. Mais aujourd'hui, en visio, on peut rencontrer beaucoup de monde. Donc, dans votre agenda, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est en Suisse, qui est en Indonésie, qui est en France facilement. Vous n'avez pas le contact physique qui, moi, me manque, mais vous avez ces rencontres-là. Donc, moi, je pense qu'un DRH, il doit sentir le terrain. Il doit se nourrir avec des capteurs qui viennent d'un peu partout dans l'entreprise. Heureusement, il est entouré d'une très bonne équipe.
Qu'est-ce que vous sentez, vous, justement, aujourd'hui? Vous êtes très, très investi sur les questions de diversité, de féminisation de l'entreprise. Est-ce que vous avez avancé? Ça, ce sont des sujets qui sont en transformation, mais presque acquis dans les esprits. Ou est-ce qu'il y a encore énormément de travail? C'est quoi vos sujets de demain?
Alors, nous, on a 3 sujets pour aujourd'hui et pour demain, qui sont notre feuille de route stratégique en RH. Et la crise, ça a été l'occasion de les accélérer. Le premier, c'est les méthodes de travail. Donc, on a lancé l'année dernière un programme qu'on appelle Smart Working. Mais j'insiste, Smart Working, ce n'est pas que le télétravail. Parce que je pense qu'il y a une reconfiguration de l'engagement et de la manière dont les personnes travaillent. Le télétravail est une dimension importante. Et donc, nous, on a une politique mondiale de 2 jours minimum de télétravail qu'on est en train de mettre en place. On reconfigure nos locaux, on forme nos managers. C'est un programme extrêmement important. Le deuxième pilier, c'est effectivement la diversité et l'inclusion. C'est un sujet qui m'est personnellement extrêmement cher. AXA est très engagé sur ces sujets-là depuis plus de 15 ans. Historiquement, ceux qui connaissent l'histoire d'AXA savent que notre fondateur, par exemple Claude Bébéard, était l'un des créateurs du CV anonyme en France. Mmh. Depuis 15 ans, on a des programmes très importants sur la diversité et l'inclusion. Je suis heureuse qu'aujourd'hui, sur la diversité de genre, on voit les fruits. Et les fruits, c'est quoi? C'est que 36% de nos dirigeants au niveau mondial sont des femmes. 36% de nos PDG sont des femmes. Quand je regarde les 50 PDG de nos entreprises, bien sûr, Il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais je dirais que ce qui est important, c'est que nos plans de succession aujourd'hui, quand je les regarde partout dans le monde, il y a 43% de femmes.
C'est pour ça que je vous dis que c'est presque plus un défi. C'est la continuité d'un travail déjà engagé.
C'est la continuité d'un travail déjà engagé, mais il faut aller au-delà de la diversité de genre, du genre. Et là, il y a des domaines pour lesquels il reste beaucoup à faire. Depuis de nombreuses années, on est engagé sur LGBT, l'orientation sexuelle, le handicap. Ce dont je suis le plus heureux, c'est que cette année, on a fait pour la première fois, et je pense que très peu d'entreprises le font, une enquête mondiale sur la diversité et l'inclusion, c'est-à-dire que tous les salariés d'AXA dans le monde ont reçu une enquête pour leur demander s'ils trouvent qu'AXA est une entreprise suffisamment inclusive, s'ils ont observé des comportements non inclusifs autour d'eux, etc. 57% des salariés ont répondu, c'est énorme, 57 000 personnes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On communique les résultats de cette enquête et on bâtit des plans d'action sur le handicap, sur les origines culturelles et nationales, parce que effectivement, il faut assurer que l'ascenseur social fonctionne en interne. Donc la diversité et l'inclusion, oui, on progresse, mais il reste encore du chemin. Et puis le troisième volet de notre politique RH, et la crise a accru ce besoin, c'est vraiment la santé. Nous, on est un assureur, donc ça nous met, je dirais, aux avant-gardes de la compréhension des phénomènes à l'œuvre sur la santé. Et ma conviction personnelle, moi, de DRH, c'est que aujourd'hui, les employeurs doivent s'occuper un peu plus de la santé de leurs collaborateurs.
La santé de manière globale, pas seulement la santé mentale.
La santé mentale et la santé physique, parce que les deux, on le voit bien, les deux interagissent. Et donc, le choix qu'on a fait, nous, c'est de mettre en place une politique mondiale de santé. Concrètement, c'est quoi ? C'est un accès à des check-up médicaux pour tous les salariés de plus de 40 ans qui peuvent aller dans un laboratoire mais, pour faire des analyses de sang, des radios, etc. Mais c'est le cas en France, mais c'est le cas en Inde. Mm-hmm. C'est la prise en charge financière du traitement contre le cancer partout dans le monde, y compris, encore une fois, en Asie, en Afrique. Peu d'entreprises le font, mais c'est notre politique mondiale de santé. Et puis, effectivement, nous lançons des programmes particuliers sur la santé mentale. Je pense que là, c'est vraiment au cœur du pacte d'entreprise entre le collaborateur et l'entreprise. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'investir très massivement sur une politique santé qui est en cours de déploiement.
Dernière question, Karima Sylvent. Vous avez plutôt un profil Sciences Po, ENARC. Vous auriez pu faire de la politique, gérer une grande région. Enfin, je ne sais pas, je peux vous inventer plein de choses. Pourquoi vous avez voulu être DRH ?
Alors moi, je suis devenue DRH. C'est mon deuxième métier. Mais comment ? En rencontrant des DRH. Ma première carrière, vous l'avez souligné, c'était dans l'administration et je m'occupais de restructuration d'entreprises. Et j'ai rencontré des DRH qui m'ont donné envie. Et moi, à tous ceux qui nous regardent ou à d'autres qui font des études diverses, je leur dis, c'est le moment, engagez-vous dans le métier RH parce que c'est un métier complexe qui est au cœur de la transformation des entreprises. La RH, c'est du business. Ouais. Et ça, j'insiste énormément, c'est de la stratégie, c'est du business et je pense que c'est un moment formidable pour faire des ressources humaines.
Voilà un métier à impact. Merci beaucoup Karima Sylvent d'être venue dans Happy Boulot, le mag DRH d'AXA. On va parler de l'agisme. Est-ce que vous savez ce que c'est ?
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Les seniors ont-ils la même place dans l'entreprise que les autres ? C'est notre sujet avec Audrey Dufeu. Bonjour, vous êtes députée LREM de la Loire-Atlantique. Vous êtes vice-présidente de la commission des affaires sociales. Et vous avez vous intéressé au quotidien à la question de ces seniors au travail. On fait dans l'entreprise de l'agisme. Qu'est-ce que c'est ?
Je m'intéresse au vieillissement en général de la population. Et en fait, très vite, on se rend compte que les discriminations liées à l'âge, elles arrivent passé 45 ans en entreprise et donc sur cette deuxième partie de la carrière. Donc l'agisme, c'est tout simplement un phénomène sociologique qui a été identifié aux États-Unis qui résume toutes les discriminations où l'âge est vraiment la source de la discrimination. Et on se rend compte que les femmes, d'ailleurs, sont davantage pointé et ciblé par ce phénomène.
Dans le code du travail, il y a écrit discrimination par l'âge, le sexe, etc. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de dénonciations? Est-ce qu'on se sent fragile, en fait, plus que pour les autres discriminations?
Très peu, parce qu'il y a un vrai non-dit au niveau de l'âge, pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que les personnes ne sont pas forcément conscientes des discriminations en lien avec leur âge. On parle beaucoup du sexisme, du racisme, mais très peu de l'agisme. C'est vraiment un phénomène très, très nouveau. Et je crois qu'il faut le dénoncer. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui sur ce plateau, parce que l'essentiel, c'est de lancer l'information, que chacun réfléchisse. Est-ce que dans son milieu de travail, est-ce que je suis victime de discrimination dans mon quotidien uniquement parce que j'avance vers la retraite? Et d'ailleurs, on se rend compte qu'en France, le taux d'employabilité chez les plus de 55 ans est assez faible, hein, il est de 52% et de 33% chez les plus de 60 ans. Et donc, à un moment où on se pose la question de rallonger l'âge de départ à la retraite, on peut aussi et on doit interpeller les entreprises, les entrepreneurs, les différents salariés sur comment est-ce qu'on maintient et on accompagne les seniors en entreprise. C'est essentiel pour demain.
Est-ce que vous pensez que le télétravail, la crise sanitaire, a aggravé justement cette mise en retrait d'une partie de la population plus âgée ?
Je crois pas. En tout cas, j'ai jamais fait lien direct avec le télétravail. C'est vraiment un phénomène. L'agisme, c'est un venin du quotidien. Au-delà,
c'est pas juste la techno et la maîtrise des
technologies. Je ne crois pas. Non. La technologie, enfin, c'est pas ce qui nourrit forcément l'agisme. Ce qui nourrit l'agisme, c'est vraiment le lien qu'on fait à la performance de manière générale, à ce qu'on apporte économiquement, et à une pure rentabilité des personnes en entreprise ou dans la société de manière générale. La technologie, ça peut être une des sources d'agisme, mais ce n'est pas vraiment essentiel.
Qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'il faut faire des campagnes pour expliquer qu'on est utile à plus de 55 ans? Pourtant, l'entreprise aujourd'hui, elle ne fait que dire qu'elle s'intéresse à la compétence, il n'y a que ça. Et non, en fait, il y a quand même des freins.
Oui, je pense que c'est des freins sociétaux, hein, qui dépassent les portes de l'entreprise, pour le coup. Et donc, il faut changer le regard de manière générale sur ce que veut dire vieillir aujourd'hui dans notre société. Et surtout, ne pas toujours relier la valeur d'une personne à ce qu'elle apporte économiquement à la société, mais véritablement
à ce
qu'elle est.
Ça, c'est dur à comprendre dans une entreprise.
C'est dur à comprendre, mais je pense que c'est essentiel. Dans les ouvrages, les travaux que j'ai pu réaliser, je porte beaucoup le cinquième savoir fondamental. À l'école, par exemple, très jeune, on nous apprend à lire, écrire, compter et respecter autrui. Et moi, je crois beaucoup qu'on doit davantage intérioriser l'approche, c'est-à-dire conscientiser qu'est-ce que ça veut dire pour moi vieillir, comment je m'affirme, comment je prends confiance en moi tout au long de la vie et comment je m'assure, comment notre société assure aux citoyens qu'il n'y a pas de discrimination avec l'avancée en âge.
Mais on parle beaucoup de la responsabilité sociétale des entreprises, de la manière dont elles se comportent. Pour vous, ça pourrait devenir indicateur intéressant. Aujourd'hui, on a des indicateurs pour savoir combien il y a de femmes dans les boîtes. On pourrait aussi aller regarder quels sont les âges.
Exactement. C'est ce que j'avais écrit dans l'ouvrage et les travaux parlementaires. Je crois beaucoup au name and shame. Et regarder et publier, d'ailleurs, le taux d'employabilité des seniors dans des entreprises, je pense que ça pousserait, en tout cas, ça forcerait les employeurs à s'interroger sur ce qu'ils mettent en œuvre pour maintenir dans l'emploi les seniors. Il y a différents leviers, mais ce name and shame est déjà un postulat de départ.
Tout le monde n'est pas d'accord sur le name and shame. Beaucoup pensent que c'est contre-productif. Je vois que vous prenez position là-dessus.
Mais ça a plutôt prouvé que c'était plutôt efficace. Donc ceux qui ne sont pas d'accord peut-être ont quelques réticences à démontrer leurs chiffres, à les faire connaître.
Les seniors qui n'arrivent pas à trouver leur place dans l'entreprise ou parfois les jeunes retraités se mettent dans une position de consultant, d'auto-entrepreneur. Moi, je vois beaucoup de start-up se créer sur la réintégration de seniors dans l'entreprise. C'est une sorte d'aveu d'échec.
Alors, ça dépend dans quel cadre le projet se fait d'auto-entrepreneuriat. Je pense que ça, si c'est vraiment le souhait de la personne de se réaliser différemment et d'affirmer son projet professionnel, tant mieux. En revanche, si c'est une manière de déguiser justement des départs, des ruptures conventionnelles de personnes vieillissantes et de les accompagner sur des portes de sortie, là, ça peut être compliqué. Encore une fois, ce cinquième savoir sur je m'affirme et j'exprime ce que je veux pour moi-même en vieillissant, je pense que ça doit vraiment être la base de tout.
Mais est-ce que vous placez ça sur un sujet personnel, de la manière dont on se voit chacun vieillir et nos peurs vis-à-vis du vieillissement?
Le vieillissement, enfin, le regard qu'on porte sur le vieillissement, il se passe à trois niveaux. Le premier niveau, c'est évident, c'est d'un point de vue personnel, quel regard on porte sur soi-même. Il y a tout l'entourage après, en milieu d'entreprise, dans sa vie sociale, dans le milieu associatif, dans son quartier. Et puis, il y a aussi beaucoup au niveau des politiques publiques, comment est-ce qu'on construit notre société et comment on se fait en sorte que les politiques publiques répondent aux besoins et aux enjeux sociétaux de demain. On ne pourra pas lutter contre l'agisme si on n'exerce pas ces trois leviers à différents niveaux.
Et vous voyez une campagne anti-discrimination contre l'agisme ?
Ah, je la vois et je la porte et je l'espère très fortement. On est beaucoup à s'intéresser au sujet. Quand je fais des conférences sur mon territoire, je vois bien qu'il y a une vraie appétence des seniors sur le sujet. Et je crois que la discrimination, elle ne se luttera que comme cela si les personnes elles-mêmes concernées, se mobilisent, se réunissent et portent le message que vieillir n'est pas une maladie. Et au contraire, en vieillissant, on peut avoir plein d'autres manière de s'épanouir au travail, mais aussi pas que, à l'extérieur beaucoup, sur le volet associatif, personnel, familial. Voilà, vraiment, c'est porter une parole positive sur le vieillissement, c'est extrêmement important.
Et bien, on vous soutient dans cette démarche. Audrey Dufeu, députée LREM de la Loire-Atlantique, vice-présidente de la Commission des affaires sociales, l'inclusion en entreprise, ça marche aussi jusqu'à la retraite. On va parler ensemble de conférences et de vidéoconférences, comment être bon ou pas trop mauvais.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Business Case.
Les conférences en visio, tout le monde en fait, mais est-ce que vous le faites bien ? Ça n'est pas si sûr. On est avec Sophie Bakker. Bonjour, vous avez écrit un livre sur la question visio, gagner en impact, c'est aux éditions Viber. Tout le monde fait des visios, tout le monde parle, tout le monde écoute, mais on ne se pose pas toujours les bonnes questions, savoir est-ce que j'ai un impact quand je parle ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire d'abord ?
Alors, avant de voir qu'est-ce qu'il faut pas faire, je préférerais revenir sur la question de l'impact, justement, parce qu'en fait, c'est le début de la prise de conscience. La question, c'est pas de savoir parler, tout le monde sait parler. La question, c'est qu'est-ce qu'il en reste une fois que j'ai fini de parler ? Est-ce que on m'a écouté ? Est-ce que je me suis fait comprendre ? Et est-ce que je vais obtenir un résultat à la fin de ma prise de parole ? Alors, c'est une question qui se pose en toute situation, mais en visioconférence, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu comme une machine à laver. C'est pas parce que vous la branchez que vous obtenez le résultat. Avant, pour obtenir un résultat, eh bien, il faut savoir prendre les fonctionnalités et se les approprier pour avoir le meilleur résultat qu'on veut obtenir. Alors, il y a des tas de choses qu'il ne faut pas faire. Je préférerais qu'on parle des choses qu'il faut faire.
Ah bah, dites-moi d'abord ce qu'il faut éviter quand même.
Alors, surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas avoir d'impact, c'est-à-dire de disparaître derrière l'outil. Par exemple, j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Moi, je préfère éteindre ma caméra parce que je me sens plus confortable, je suis plus à l'aise quand ma caméra n'est pas allumée. » Alors, très bien, peut-être que la personne est plus confortable, mais est-ce qu'elle a de l'impact ? La réponse est non, parce qu'on sait scientifiquement que l'auditoire, il a besoin de voir, il entend mieux, il écoute mieux quand il voit. Ça, c'est les systèmes cognitifs, les mécanismes cognitifs qui font que plus vous mettez de l'image, plus vous avez une chance de capter l'attention. Donc, si vous éteignez la caméra, eh bien, vous perdez en impact, techniquement, mécaniquement.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après ? Il faut préparer, ne pas considérer qu'on peut y aller comme ça, from scratch ?
Alors, déjà, préparer, prendre du temps, je dirais même avant d'être connecté, pour caler le bon niveau d'image, le bon cadre. On voit très souvent des images sur le plafond, tout simplement parce que la caméra est plus basse que celui qui parle, donc la caméra va faire une contre-plongée. Alors, il y a 2 ans, quand on a commencé à faire de la visio...
Oui, j'allais vous dire, c'est bon, maintenant les gens sont conscients de ça.
Bah écoutez, en venant, je voyais votre retour antenne, il y avait un monsieur qui était en direct, qui avait l'air très savant dans ce qu'il racontait, mais on voyait son plafond.
Ouais, c'est vrai.
Donc, on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on commence à être un petit peu vigilant sur comment améliorer mon image, comment améliorer l'éclairage sur moi et pas dans mon dos, pour ne pas être à contre-jour, et pour qu'on voit mes mimiques, pour qu'il y ait ce feedback. En fait, la visioconférence, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de feedback. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas ce vibrato énergétique entre celui qui parle et celui qui écoute.
Du coup, comment on mesure son fameux impact ?
À l'arrivée. Est-ce que mes collaborateurs à qui j'ai demandé de prendre l'ascenseur de droite, est-ce qu'ils prennent l'ascenseur de droite ? Autrement dit, la meilleure mesure d'audience, chez vous c'est l'audimat, dans l'entreprise ça va être la réalité effective de la consigne qu'on a transmise par exemple, ou de l'adhésion qu'on a pu obtenir de ses équipes. Il n'y a pas d'autres moyens de mesure. Après, il y a des moyens en cours de route.
Mais vous savez ce que fait l'humain de base, quand il justement n'obtient pas le résultat, il dit que c'est pas lui qui a mal parlé, c'est que les autres ne comprennent rien.
Eh bien oui, mais il faut retourner le prisme, ça s'appelle un changement de paradigme en fait. Dans le temps d'avant, celui qui parlait, l'orateur, était en posture de pouvoir, on l'écoutait. Aujourd'hui, et a fortiori en visioconférence, l'auditoire est aléatoire, il est distrait, chaque élément de l'auditoire est dans sa bulle singulière, il n'y a pas de cohésion comme il y a une cohésion dans une salle de réunion physique. Et donc,
C'est-à-dire qu'il faut travailler presque encore plus pour justement que les gens soient captés, alors que dans la réunion, ils ne peuvent pas partir, a priori. Alors que là,
ils peuvent s'évader mentalement, mais ils peuvent beaucoup moins partir. Oui, alors il faut préparer, c'est très important de construire le récit, le propos différemment. Différemment, ça veut dire en mode pitch, hein, ce qu'on appelle le pitch dans le jargon, c'est-à-dire quelque chose qui va être accrocheur d'emblée, qui va être plus court que le fameux thèse, antithèse, synthèse, qui est totalement dépassé finalement par la dans le monde de la vidéoconférence, la visioconférence en français, vidéoconférence en anglais ou en espagnol, et construire le propos beaucoup plus concret, beaucoup plus ramassé, beaucoup plus straight to the point in English.
Pensez à votre impact. Quelle est l'histoire que vous allez raconter? La question qu'il faut se poser avant chaque visioconférence. Sophie Baker, vous avez écrit Visio, gagner en impact. Lisez-le avant de faire une visio. Ça peut toujours vous servir pour gagner en impact. Merci beaucoup d'avoir suivi Happy Boulot, le mag. C'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.